Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu Ban Ki-moon au Chili, le Conseil de sécurité examine les situations de l'Ukraine et de la Syrie. Au Malawi, après les inondations, le choléra. La CPI confirme l'acquittement de l'ancien milicien congolais Boudjolo Choui. Dans le dossier, nous revenons sur l'appel humanitaire pour le Mali. Enfin, un gros plan sur le programme de formation de l'UNESCO pour les jeunes Syriens. On commence avec le voyage du secrétaire général au Chili et sa participation à la réunion de haut niveau, les femmes au pouvoir et la prise de décision qui se tient ce vendredi à Santiago, en présence notamment de la présidente Michelle Bachelet qui a été la première dirigeante d'ONU Femmes. Lors de son intervention, Ban Ki-moon a indiqué qu'il a pu voir à travers l'exemple de sa mère, aujourd'hui âgée de 95 ans, le long et dur combat des femmes pour pouvoir voter.
Lentement mais inévitablement, les pays ont accordé le droit de vote aux femmes. Dans le monde, les femmes sont parvenues à se hisser au sommet dans les entreprises et les gouvernements. Il y a eu une percée décisive en 1979, quand l'Assemblée générale a adopté la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Puis en 1995, quand les Nations Unies ont mobilisé le monde lors de la conférence de Beijing sur les femmes. Un programme d'action qui reste notre plan phare pour une égalité totale.
Alors que l'Ukraine paraissait se trouver au seuil d'un conflit généralisé il y a à peine quelques jours, il semblerait que les parties soient en train de prendre des mesures pour honorer leurs obligations découlant des accords de Minsk. C'est ce qu'a affirmé ce matin devant le Conseil de sécurité le chef de la mission spéciale d'observation en Ukraine de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Réunion au cours de laquelle la chef du groupe de contact trilatéral de l'OSCE a toutefois tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire dans l'est du pays. Isabelle Dupuis.
Devant les 15, Ertuğrul Apakan, le chef de la mission spéciale d'observation en Ukraine de l'OSCE, a indiqué que jeudi, des armes lourdes ont été retirées de plusieurs endroits des lignes de contact. Bien que la mission n'ait pas été en mesure d'identifier l'origine ni la destination finale de ces armes, Ertuğrul Apakan a estimé que c'était une évolution positive. Il a précisé que les activités de la mission s'étendront pour couvrir l'ensemble de la zone dite de sécurité, soit une superficie de près de 50 000 km². Plus de 300 observateurs de l'OSCE se trouvent déjà dans les régions de Donetsk et de Luhansk. Si le cessez-le-feu est maintenu, le groupe de contact trilatéral de l'OSCE pourra tacler certaines des questions les plus pressantes pour résoudre le conflit, notamment l'appui au dialogue politique. C'est ce qu'a indiqué de son côté Heidi Tagliavini, la chef de ce groupe qui est constitué de l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE. Heidi Tagliavini a aussi souligné que la livraison de l'aide humanitaire dans la zone de conflit, où les besoins sont terribles, doit être une priorité. Le conflit a déjà fait près de 6 000 morts et des milliers de blessés graves. Plus d'un million de personnes ont été déplacées et les combats ont aussi provoqué de lourdes destructions.
Merci Isabelle. Conseil toujours avec la Syrie, alors que le conflit syrien entame bientôt sa cinquième année. Les 15 se sont réunis jeudi après-midi pour débattre de la situation humanitaire. Ils ont entendu le haut-commissaire pour les réfugiés Antonio Guterres tirer la sonnette d'alarme, notamment pour les 3,8 millions de réfugiés dont les économies ont été épuisées par les années d'exil. La coordonnatrice adjointe des secours d'urgence a présenté le dernier rapport du secrétaire général sur la situation humanitaire, élaborant les domaines nécessitant des progrès urgents. Kyung Wakang, qui a exhorté les 15 à agir, a déploré que les opérations humanitaires n'aient été financées qu'à hauteur de 48% à la fin de 2014. Kyung Wakang.
Nous ne pouvons pas nous permettre les terribles conséquences entraînées par tout échec à répondre à ces besoins. Le manque de financement a déjà contraint le PAM de réduire les rations alimentaires de 30%. À long terme, nous serons seulement en mesure de donner des vivres aux personnes extrêmement vulnérables. Pour chaque million de dollars que l'OMS ne réussit pas à lever, quelque 227 000 personnes perdent leur accès à des services de santé essentiels. À moins de recevoir un financement, 1 million d'enfants qui sont à présent déscolarisés n'auront pas accès à des options éducatives alternatives. Les programmes de malnutrition pour jusqu'à 1 million d'enfants devront s'arrêter ou être réduits.
Le Yémen, à présent, alors que la situation reste volatile, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme exhorte les parties à reprendre un dialogue constructif pour éviter l'instabilité. L'ONU insiste surtout sur l'impunité et la nécessité de traduire les auteurs de crimes en justice. Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
À un moment où le dialogue politique semble chanceler, nous appelons toutes les parties en présence d'abord à sortir de cette impasse politique d'une manière pacifique, à éviter une nouvelle escalade de violence. Depuis plusieurs mois, il y a des manifestations massives à travers le pays et nous avons documenté un certain nombre d'arrestations arbitraires et aussi la prise pour cible de journalistes. Ce qui pose problème, c'est aussi l'impunité qui règne. Et si les personnes qui sont responsables des violations des droits de l'homme et des abus qui sont commis dans le pays ne sont pas traduites en justice, eh bien, nous craignons que les violences ne fassent que continuer. Donc, nous demandons aux autorités, bien sûr, de favoriser le dialogue politique, mais aussi de s'assurer que les personnes qui sont responsables de violations des droits de l'homme et d'abus rendent des comptes pour les crimes qu'elles ont commis.
Malawi, après les inondations, c'est le choléra qui frappe. Le ministre de la Santé a confirmé 39 cas, dont 2 décès ces 2 dernières semaines. La grande majorité ont été recensés dans le sud du pays, où se trouvent les populations déplacées par les inondations dans des camps fortement peuplés. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'inquiète et s'active. Distribution de kits, cliniques mobiles, accès à l'eau potable, médicaments, matériaux de protection et lits, car les conséquences peuvent être dramatiques. Christophe Boulay, l'Irak, porte-parole de l'UNICEF.
S'il n'est pas correctement traité, le choléra peut tuer en quelques heures et est particulièrement dangereux pour les jeunes enfants. Les populations déplacées sont extrêmement vulnérables, notamment les personnes dont le système immunitaire est faible, comme les enfants qui souffrent de malnutrition. Du fait des inondations, les services de santé au Malawi sont déjà surchargés et en cas de propagation rapide du choléra, ce que nous n'espérons pas, ce serait un facteur qui compliquerait la réponse, en plus des problèmes d'accès qui subsistent.
La Cour pénale internationale confirme l'acquittement de l'ancien milicien congolais Gudjolo Choui, accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village de la RDC en 2003, ayant fait plus de 200 morts. La chambre d'appel à la majorité confirme le jugement d'acquittement et rejette l'appel du procureur, a déclaré à La Haye, où siège la Cour, la juge Sanji Masenono Monageng, lors de la lecture de l'arrêt d'appel. Jeff Ngoy, de Radio Capi.
La chambre d'appel à la majorité a rejeté les 3 motifs d'appel du procureur. Les conclusions des faits, l'évaluation de la crédibilité des témoins et des preuves documentaires de la chambre de première instance contestées par le procureur sur le rôle de Mathieu Ngudjolo dans l'attaque du village de Bogoro à Nitouri en 2003 n'ont pas été jugées déraisonnables. En outre, les juges d'appel ont conclu que la chambre de première instance a appliqué la bonne approche dans son processus de prise de décision. C'est depuis le 18 décembre 2012 que l'ancien milicien congolais avait été acquitté de 3 chefs de crimes contre l'humanité, notamment le meurtre, le viol et la réduction en esclavage sexuel. Il était aussi poursuivi pour 7 chefs de crimes de guerre.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec le Mali. Les organisations humanitaires du pays ont lancé un appel de 377 millions de dollars pour répondre aux besoins de plus d'1,5 million de personnes en 2015. Daniel Johnson a tendu son micro à Jens Larke, porte-parole d'OCHA à Genève.
On vient de lancer un appel humanitaire pour le Mali, pour répondre à la crise humanitaire qui est dans ce pays et qui touche au moins 2,6 millions de personnes. Cet appel, qui demande 377 millions de dollars américains, vise 1,5 million de personnes, les plus vulnérables. Un très grand problème au Mali, c'est la malnutrition, qui est très étendue et qui touche énormément d'enfants. Environ 715 000 d'enfants sont en risque d'être touchés par la malnutrition aiguë, et ça veut dire qu'ils sont un risque de mourir. Ils ont un taux de mortalité qui est 9 fois plus élevé que les autres enfants.
Et les problèmes surviennent surtout dans le sud du pays, il y a plus de monde, c'est ça? Mais au nord, il y a aussi des problèmes pour ceux qui ont été déplacés, qui rentrent chez eux dans le nord.
C'est correct. Et depuis la crise, il y a à peu près 2 ans, on a vu un retour de 400 000 personnes vers le nord du pays. Ils rentrent, rien. Il n'y a pas des services sociaux, il n'y a pas d'éducation pour les enfants, etc. Ça veut dire qu'il y a des besoins dans tous les secteurs, au nord et au sud du pays, qui continuent en termes de nutrition, de la nourriture, de l'eau, l'assainissement, des services sanitaires, des services d'éducation, ainsi de suite.
Il y a 60 000 personnes déplacées partout dans le pays. À l'intérieur du pays, du Mali, je veux dire, et puis à l'extérieur, il y a 135 000 personnes déplacées. Ils ne peuvent pas rentrer sans avoir ces services essentiels, c'est ça?
Non, c'est un problème énorme. Il se trouve, les 135 000 réfugiés qui ont traversé la frontière au cours de la crise se trouvent dans une situation très, très précaire, parce qu'ils sont dans des pays voisins où il n'y a pas non plus grand chose à faire pour eux, il n'y a pas de travail, ainsi de suite. Et c'est un problème pour eux de rentrer parce qu'il n'y a pas une société qui fonctionne d'une manière optimale.
Suite au conflit qui fait rage depuis bientôt 5 ans, 3 millions d'enfants et de jeunes Syriens ont été contraints d'abandonner leurs études. 70% des réfugiés syriens âgés de 15 à 30 ans n'ont toujours pas accès à l'éducation formelle. L'UNESCO vient de lancer un programme de 2 ans pour combler les écarts de formation de dizaines de milliers de jeunes en Syrie qui se sont réfugiés en Jordanie, au Liban et en Irak. Claude Akpabi, responsable du département de l'éducation du bureau de l'UNESCO à Amman, revient sur cette initiative au micro d'Isabelle Dupuis.
L'idée, c'était de voir à peu près de quelle manière l'UNESCO pouvait contribuer à amortir le choc de la crise du conflit syrien avec l'afflux de réfugiés dans les pays de la sous-région. Donc, on a choisi un certain nombre d'axes prioritaires pour faciliter l'accès à une éducation de qualité aux jeunes essentiellement âgés de 15 à 30 ans parmi la population de réfugiés dans les pays qui sont hôtes de ces réfugiés dans la région.
Et quel a été l'impact justement du conflit sur l'éducation des Syriens? Y a-t-il des chiffres?
On estime pour notre part, grosso modo, que pour la population ou le groupe d'âge qui nous concerne, c'est-à-dire les jeunes de 15 à 30 ans, on est dans les environs de 30% de provision de services. Donc il y a à peu près 70% qui sont encore laissés à la marge. C'est d'approximation parce qu'il n'y a pas de chiffre fiable sur la situation des réfugiés en tant que tel, mais nous estimons que 30%, grosso modo, en moyenne, de la population de ce groupe d'âge est couvert par les services éducatifs.
Et donc votre programme cible, comme vous l'avez dit, la tranche d'âge des 15-30 ans, pourquoi avez-vous choisi cette tranche d'âge-là et pas, par exemple, les plus jeunes, les enfants du niveau primaire?
Oui, parce que justement, on trouve que nos partenaires qui sont dans l'humanitaire, ils font assez déjà pour apporter des services éducatifs à ceux qui sont d'âge primaire. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de nous concentrer sur les populations d'âge post-primaire, essentiellement ceux qui sont éligibles au secondaire, à l'enseignement technique et professionnel et puis à l'enseignement supérieur.
Et concrètement, en quoi va consister le programme? Est-ce que vous allez en dépêcher des enseignants dans les camps de réfugiés? Comment est-ce que ça va se passer?
Alors, la situation dans la région, c'est qu'il y a un camp Jordanie qui a véritablement un camp dédié pour les réfugiés. Et quoique même en Jordanie, il y a une bonne partie de la population qui est en dehors des camps. Mais dans la plupart des autres pays de la région, en Irak, il y a beaucoup de gens qui sont déplacés à l'interne et ça couvre la population irakienne du fait de la nouvelle crise qui est née en Irak. Mais pour ce qui concerne les Syriens, au Liban, ils sont plus ou moins mêlés à la population. Donc, il n'y a pas de situation de camp en tant que tel au Liban ou en Syrie où il y a aussi des déplacés internes. Donc, ce qui se fait pour ce qui concerne en Jordanie actuellement, c'est d'apporter des services dans le secteur non formel au niveau du camp et aussi à l'extérieur du camp, et puis d'apporter des services de formation aux enseignants pour pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions qui prévalent maintenant dans leur classe. Donc ça, c'est à peu près les services qu'on offre aujourd'hui au niveau de la Jordanie, en plus de renforcer les capacités du gouvernement pour pouvoir planifier sa réponse à la crise.
Et c'est avec Claude Akpabi que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.